histoire particulière. L'amiral Alain Coldefic a navigué sur toutes les mers. En cette rentrée 2020, il publie aux éditions Favre « Amiral, le sel et les étoiles ». Il y raconte la mer, les mers, source infinie d'humidité et de rêve, mais aussi le mal de mer, l'odeur aigre de la bile qui remonte de l'estomac, le tangage qui fait ascenseur des heures et des heures, les paquets d'eau de mer qui glacent les veilleurs, les vagues plus hautes que le bateau et qu'on ne voit pas la nuit. Tels sont sans doute ce que les passagers du bateau Afrique ont vécu lors du naufrage du 12 janvier 1920. Et c'est ce que vous racontent tout de suite Clémence Marie et François Test.
Il m'est impossible de prendre un autre cap. Je fais tout ce que je peux pour nous écarter de Rochebonne. Chaufferie et machines sont pleines d'eau. Et il nous reste seulement trois chaudières. Nous apercevez-vous? En manœuvrant pour nous rapprocher de vous, nous vous avons perdu de vue. Nous vous apercevons sur trois quarts de l'avant du travers.
Les oubliés du paquebot Afrique. Par Clémence Marie et François Test. Premier épisode, dans les eaux sombres.
L'eau gagne toujours dans Chaufferie.
Les premières fois que je suis descendu dessus, je suis descendu forcément au milieu. On arrive dessus un éboulis de ferraille gigantesque. Ça fait 120 mètres de long. On ne voit pas de couleur. Et peu à peu, l'œil s'habitue et on finit par voir comme dans une pièce normale parce que l'œil, vraiment, il fait des efforts. Et là, on fait une promenade très angoissante les premières fois parce qu'on arrive quand même sur un cimetière. C'est une catastrophe. Et ça ne ressemble pas ou peu à un bateau. Donc on se promène, il y a énormément de poissons, il y a beaucoup de filets d'accrochés dessus, et là on peut monter trois niveaux qui sont éclairés par des hublots ou des trous dans la coque, et la lumière rentre par là-dedans. Il y a un environnement malgré tout très séduisant, cette espèce de peur est chargée de poésie, c'est envoûtant, j'irais.
La Méduse, le Djoula, le Titanic, le Costa Concordia. Des années après avoir occupé le devant de la scène, ces noms continuent de hanter les esprits. C'est que le naufrage fascine, avant d'effrayer, comme une mise en scène spectaculaire de la lutte intemporelle entre l'homme et la nature. Porté par le récit de ses rescapés, il interroge, dans l'ombre des disparus, notre rapport à la fatalité. Au panthéon de ces drames figure une tombe sans nom, un naufrage oublié ou presque, sans mémoire collective. Nous sommes à Bordeaux, en 1920, et on embarque à bord du paquebot Afrique, aux côtés de 600 autres passagers, dont près de 200 tirailleurs, vers les côtes africaines, et pour la pire catastrophe civile maritime française.
Roland Mornet, vous êtes ancien capitaine au long cours.
Je suis capitaine de pêche, mais j'ai commandé longtemps des navires de l'Ifremer. Mais j'ai commencé à 14 ans, ici au sable, 1m47, 39 kg. Et voilà, le mal de mer pendant 4 jours, 23 jours la première campagne, et j'ai continué.
Donc nous sommes sur la jetée de la Chaume, le quartier de pêcheurs des Sables d'Olonne. Comment vous avez connu, vous, cette histoire de l'Afrique à laquelle vous avez consacré un ouvrage? Vous avez été le premier à consacrer un ouvrage à cette histoire.
Alors, l'Afrique, j'en entends parler depuis ma tendre enfance. J'en ai entendu parler aussi quand j'étais mousse. Mais c'était plutôt anecdotique. C'était les corps des Africains trouvés dans le chalut, avec les dents blanches qui semblaient les défier. Autrement, je me suis toujours intéressé au naufrage. Je peux presque dire, je ne dirais pas que je suis un naufrage à moi tout seul, mais j'ai vécu dans le naufrage comme d'autres vivent dans le péché. Mon premier naufrage, entre guillemets, c'est tout près de mon lieu de naissance. J'ai vu une vieille dame hurler sa douleur de mer. Elle venait d'apprendre que ses deux seuls enfants étaient perdus. Et cette image, cette scène est restée dans ma mémoire, c'est resté imprimé. Voilà.
Je sous-signais Coré Eugène, capitaine au long cours, inscrit à Dieppe numéro 40, remplissant à bord du paquebot Afrique de la Compagnie des Chargeurs Réunis les fonctions de deuxième capitaine. Certifie ce qui suit. Le 9 janvier 1920, vers 19h, nous avons quitté Bordeaux sous la conduite du pilote, le navire en bon ordre et en parfait état de navigabilité. Le 10 janvier 1920, à 7h30, matin, appareillé du Verdon et fait route vers la haute mer sous la conduite du commandant.
Voilà, alors je suis Luc Corloer, je suis auteur et conférencier depuis une quinzaine d'années maintenant. Et j'avais en mémoire ce sujet du paquebot Afrique depuis longtemps, parce qu'il se trouve qu'un membre de ma famille en était le maître d'équipage du paquebot. Il s'appelle Joseph dans le livre, mais Jacques Corloer dans la réalité. Et j'ai décidé en 2014 de franchir le pas et d'en écrire un ouvrage.
Qui s'appelle Le Bosco de Kerpalu.
Alors, Le Bosco, parce que dans la marine marchande, c'est le maître d'équipage. Donc, tout le monde connaît le Bosco à bord, c'est le patron des marins. Et de Kerpalu, parce que c'est le petit quartier à côté de Paimpol où il habitait. La Bretagne a beaucoup donné pour la marine nationale et la marine marchande. Et là, à bord du bateau, ils étaient, oui, une bonne quinzaine de Paimpol. Et ils se connaissaient tous, et depuis longtemps. Un exemple, le commandant de bord s'appelait Ledu, le capitaine Ledu, et il connaissait très bien Jacques Corloer, hein, Joseph Talec dans le livre, et il se tutoyait, mais jamais en présence d'un membre de l'équipage. Donc il se voyait dès lors qu'ils étaient sur la passerelle et qu'il y avait du monde à bord.
Pourquoi avoir choisi de se rendre sur cette jetée de la Chaume ?
Oui, nous sommes à l'entrée du port des Sables, le long du chenal, côté la Chaume, et tout près de la rade des Sables, du port des Sables, qui est extrêmement dangereuse. Aujourd'hui, il fait très beau temps, mais c'est une rade exposée au vent de sud-ouest. Et il y a eu des quantités de naufrages. Il y a eu des centaines de marins là, qui sont morts tout près, et encore il n'y a pas si longtemps.
Dont le bateau Afrique.
L'Afrique a coulé à 22 006, ça fait 42 km, dans l'ouest, sud-ouest du port des Sables. Les Sables, c'est le port le plus proche du lieu du naufrage. Alors le paquebot Afrique était parti de Bordeaux le 9 janvier 1920. Il avait mouillé, était venu au mouillage pour la nuit à l'estuaire au Verdon. Il était reparti le lendemain matin de bonne heure. À ce moment, il ne faisait pas très beau. Et la destination du paquebot Afrique, mais c'était d'où son nom, d'ailleurs, tous les ports africains, en commençant par Dakar, Conakry, à l'époque, Abidjan, et tous les ports du Congo, et tout cela. C'est un bateau relativement récent pour l'époque. Il avait un peu plus de 12 ans au moment de sa perte, alors que la moyenne des navires de commerce à l'époque était de 17 ans. Alors, ce navire appartenait à la compagnie des chargeurs réunis, hein, qui desservait le monde entier. C'est pour ça que sur la cheminée des navires des chargeurs, il y avait 5 étoiles symbolisant les 5 continents.
1920, on est juste début 1920, en janvier. La guerre est terminée depuis une grosse année. Et il y a des fonctionnaires, il y a des militaires, il y a des négociants, il y a des commerçants à amener vers l'Afrique. Et puis il y a des gens, il faut qu'ils reviennent d'Afrique. Il faut qu'on amène des matières premières, il faut qu'on ramène du coton. Enfin, il faut absolument qu'il y ait des rotations. Le bateau doit tourner. Les premières et les secondes classes sont toutes utilisées et les passagers s'étonnent qu'il n'y ait personne dans les troisièmes classes. Et ils vont vite avoir une explication puisqu'ils voient sur le quai environ 200 tirailleurs sénégalais qui arrivent pour embarquer. Des tirailleurs sénégalais qu'on avait oubliés.
Vers 10h, le chef mécanicien vint prévenir le commandant qu'une certaine quantité d'eau se trouvait dans les cales de chaufferie et demandait en même temps de faire une route qui diminue le roulis. Le commandant fit mettre la route debout à la mer et lui ordonne de diminuer l'allure des machines afin de ne pas fatiguer le navire, ce qui fut fait aussitôt. À ce moment, la hauteur de l'eau dans les chaufferies ne pouvait faire croire à une voie d'eau.
Dans quel état était ce bateau au moment du départ ?
Alors, l'état du bateau était probablement assez moyen, parce que c'est un bateau qui avait beaucoup navigué. Il a dû aller en cale sèche à une époque à Saint-Louis du Sénégal pour faire des réparations. On le disait dans le langage maritime, on le disait fuiteux. C'est-à-dire qu'il y avait toujours de l'eau qui était dans les cales. C'était un bateau qu'il fallait tout le temps pomper. Il était dans un état assez moyen.
Ce bateau était commandé par le capitaine Ledu, Antoine Ledu, 43 ans, qui avait une longue carrière derrière lui. C'est un autodidacte et il commandait depuis 1913, donc depuis 7 ans. Au moment où l'Afrique est appareillée de Bordeaux, il y avait 135 hommes d'équipage et 467 passagers. Alors les passagers, c'est, pour une part, il y avait des tirailleurs sénégalais, enfin des tirailleurs africains qui avaient fait toute la guerre, les pauvres, hein, certains étaient mobilisés depuis 1912 et qui rentraient chez eux. Il y avait des militaires européens, parce que la vie reprenait son cours en Afrique, c'est après la guerre. Il y avait des femmes qui accompagnaient leurs maris, d'autres qui étaient seules ou avec leurs enfants. Les femmes étaient au nombre de 71. Elles ont toutes péri. Les enfants étaient au nombre de 19. Et c'était les petits-enfants, les petits. Parce que les aînés étaient laissés dans la famille, dans les familles en France. Voilà. Et il y avait aussi des missionnaires parmi les passagers. Il y avait 18 missionnaires, des prêtres ou des... Et puis un évêque, l'évêque Jalabert, Hyacinthe Jalabert. Alors là, il est allé voir le pape Benoît XV pour avoir des crédits, une somme d'argent pour la cathédrale du souvenir africain. Tout cet argent, bien sûr, a été pour Dakar. C'était pour Dakar. Lui débarquait à Dakar. Alors, c'est un petit peu grâce à lui qu'on a parlé de l'Afrique, parce qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle de personnages, de personnes de distinction à bord. C'est pas tous les jours qu'un évêque meurt en mer. Et c'est lui, en quelque sorte, j'allais dire à l'insu de son plein gré, qui a fait parler du naufrage de l'Afrique.
Dans la soirée, la brise fraîchit graduellement et la mer devient beaucoup plus dure. Vers minuit, les pompes n'étaient pas parvenues à épuiser l'eau. Au contraire, elle avait gagné sensiblement et dans les coups de roulis assez violents, plusieurs plaques de parquet des chaufferies avaient été enlevées. À minuit, il fut décidé, après une délibération de l'équipage, de faire route sur la palisse. Effectuer une première manœuvre sur bâbord qui ne réussit pas. Tenter une deuxième manœuvre sur tribord qui nous a amené vent arrière et à peu près à la route indiquée, soit le nord 45 est environ.
Alors quand l'Afrique est sortie de la Gironde, il ne faisait pas très beau, mais il ne faisait pas un gros mauvais temps comme il était prétendu. La sortie s'est bien passée, mais une heure après, le chef mécanicien, qui s'appelait Bélanger, appelle la passerelle en disant qu'il y a de l'eau dans la machine. Et au départ, on n'a pas vu que cette, on appelle ça une voie d'eau, était mortelle. Alors l'Afrique était quand même navigable, il avait 14 compartiments. En principe étanche, mais le vent encore forci et c'est devenu vraiment comme presque un ouragan. Et quand le commandant Ledu a décidé de virer de bord, il y a eu un problème de gouvernail. Il n'a pas pu tourner et l'eau montait toujours. Le mauvais temps s'est encore aggravé. Les hommes, les chauffeurs étaient dans l'eau jusqu'aux épaules. Et à un moment, ils étaient obligés d'évacuer la machine et le bateau n'avait presque plus de vitesse.
Le bateau va commencer à faire des ronds dans l'eau et ne va pas aller dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'au lieu de descendre vers les côtes de l'Espagne et doubler le Cap Finistère là au large de l'Espagne et de descendre vers l'Afrique, eh bien, il va remonter l'Atlantique jusqu'à la hauteur quasiment en direction de l'île de Ré. Et là, il va y avoir un deuxième moteur qui va tomber en panne, une deuxième chaudière, et là, le bateau va être incontrôlable.
Il était à ce moment environ 5 heures du matin le 11 janvier. Le navire avait pris une bande plus accentuée. La tempête s'était transformée en ouragan. À 7 heures du matin, le commandant lançait des appels de secours à Bordeaux et à Rochefort. Vers 9 heures, un radio du Ceylan nous annonce qu'il se porte à notre secours.
Et le Ceylan, avec ses projecteurs pendant la nuit, voit malheureusement avec la mer qui grossit, des creux de 10 mètres, un vent de force 9, enfin, c'est extraordinaire, un tableau infernal en quelque sorte, hein, parce qu'en plus, à bord de l'Afrique, les machines sont tombées en panne, mais il n'y a plus de lumière. On est au milieu de la nuit. Et là, on arrive le jour de la nuit où l'ouragan, lui, se déclenche.
Vers 20h, lorsque les machines furent stoppées, le commandant me donne l'ordre d'informer les passagers de toute classe et le personnel d'avoir à capler leur gilet de sauvetage et d'être prêt à toute éventualité.
Les passagers, mais ils étaient tous, presque tous, anéantis par le mal de mer. Mais ils ont dû se rendre compte quand même qu'il y avait quelque chose pour la plupart. Tout d'abord, il n'y avait pas d'embarcation pour tout le monde. À l'époque, c'était admis. Il y avait des ceintures de sauvetage, mais il n'y avait pas assez de canots. Les canots, c'était pour les blancs. C'était comme ça. La voie d'eau s'est aggravée, le mauvais temps s'est aggravé également. Et à un moment, ils ont passé au-dessus du plateau de Rochebonne, entre les roches. Hein, heureusement, parce que là, c'était fini de l'Afrique. Et par malchance, ils sont venus aborder un bateau phare qui ressemblait plutôt à une grosse bouée, qui était la longueur de ce bateau phare faisait la largeur de l'Afrique. Et dans le mauvais temps, c'était comme un duel à mort, comme deux bretteurs maladroits. Le bateau phare s'écartait, revenait frapper l'Afrique, et ça durait 7 à 8 minutes. L'Afrique est restée à flot encore un certain temps. Ça s'est arrivé un peu après minuit. Minuit, 1h du matin, le 12. Et c'est à ce moment-là que l'abandon du navire a été décidé.
À minuit, le capitaine, jugeant la situation plus critique, la bande devenant inquiétante, décida de mettre au poste d'abandon. Il fut décidé que l'on lancerait premièrement les embarcations du vent. Le canot 2 lancé avec deux hommes d'équipage, le capitaine m'ordonna de faire embarquer les femmes et les enfants. Les échelles étaient le long du bord. Une femme avait déjà descendu une dizaine de marches lorsque, sous l'effet du remous produit par un coup de roulis de l'Afrique, l'embarcation fut projetée à 30 mètres de distance, casse sa bosse et part en dérive.
Les gens se réfugient dans les coursives. On sait que le maître d'équipage se blesse, qu'il exhorte les marins à faire sortir les gens. Ils mettent à l'eau l'embarcation de secours. Ils attendent que le bateau, le paquebot, descende pour que les deux soient à même hauteur, pour que les gens puissent... Mais ça ne marche pas non plus. Et le bateau commence à prendre de la gîte et il va s'enfoncer petit à petit. L'équipage sait que le bateau est perdu. Et les passagers espèrent que quelqu'un va venir le sauver. Ils ont vu le Ceylan, ils ont vu les projecteurs de l'autre bateau. Ils disent si ça se calme, on va pouvoir se sauver. Mais non, l'autre paquebot ne peut pas s'approcher.
La gîte devenant de plus en plus forte, nous décidons de lancer les embarcations de tribord. Le canot 1 est lancé, pris par la mer, il est emporté avant que quelques hommes aient pu prendre place dedans. D'ailleurs, les passagers refusent d'embarquer et se dirigent tous vers les passerelles. Nous lançons le canot 3, qui est emporté avec quelques hommes. Il nous reste le canot 5, qui est mis à la mer après bien du mal. N'ayant plus rien à faire sur le pont des embarcations, les saisines des radeaux ayant été coupées, je me décidai à rejoindre le capitaine qui se trouvait au milieu des passagers. À ce moment, je fus aperçu par le deuxième lieutenant qui montait le canot 5 et qui ne pouvait parvenir à s'écarter du navire. Il me cria « Venez donc, vous n'avez plus rien à faire !» En effet, voyant le navire sur le point de s'engloutir, je me jetai sur un palan d'embarcation et de là, dans le canot.
Et alors là, le commandant Letu ordonne au Bosco et à ses officiers, leur ordonne d'évacuer le bateau coûte que coûte. Lui, il reste à sa barre, avec l'archevêque de Dakar, d'ailleurs, Mgr Jalabert. Ils prient tous les deux, et le Bosco sera le dernier à sauter à l'eau. Il saute à l'eau, il ne saute pas dans une embarcation. Et il se dirige vers une embarcation où des gens viennent le chercher. Mais c'est une vision d'horreur et qui va lui rester toute sa vie. Ce bateau noir, sous le projecteur du Ceylan, s'enfoncer dans l'eau. On est le 12 janvier... Et l'eau, elle doit être à 9-10 degrés. Et on raconte, mais je crois que c'est une légende, mais il faut que je vous le dise, ils ont raconté que lorsqu'ils étaient dans la baleinière, ils voient le bateau s'enfoncer, les cris des gens, les bruits des tôles, une vision dantesque. Et À ce moment-là, lorsque le bateau est englouti, les derniers remous arrêtés, eh bien l'ouragan stoppe. La tempête est terminée. Comme si l'océan avait eu son tribut.
Équipage et passagers, il y avait 602 personnes à bord. Il y a eu 568 victimes, péris en mer, donc, et 34 rescapés. Alors, les quelques rescapés, ce sont des membres d'équipage, mais qui ne se sont pas sauvés, comme certains l'ont dit, mais pour descendre les embarcations et assurer la navigation. Après, il fallait des hommes d'équipage pour eux. Après, il y a eu, si je puis dire, les plus forts et les plus chanceux. À un moment, la baleinière passait, surplombait l'Afrique. À un moment, ils ont cru qu'ils allaient retomber sur le pont de l'Afrique.
À cause des vagues ?
À cause des vagues, oui. Et puis, l'Afrique était complètement gitée, qui était complètement penchée sur tribord. Alors, ils étaient soit... Ils s'écartaient de l'Afrique. À un moment, le terme qu'ils utilisaient, ils étaient sucés par l'Afrique. À un moment, ils ont pu se dégager par l'avant et s'écarter, juste sous l'étrave. Ça, c'était à 3 heures. À 3 heures du matin, l'Afrique était encore à flot. Et à 3 heures et quart, il avait disparu. 3 heures et quart du matin, le 12.
Vers 3h20, j'essaie d'apercevoir l'Afrique, mais je ne vois plus rien. La grosse mer nous empêche de manœuvrer. Nous restons dans cette situation jusqu'à 7h du matin, heure à laquelle nous décidons de faire route à terre. Hissons une voile de fortune, et à 16h30, le même jour, nous accostons terre au goulet près Saint-Vincent-sur-Jard.
Mon grand cousin avait 34 ans lorsque le paquebot Afrique est parti de Bordeaux, avec une très grande expérience de la mer. C'était, je crois, sa 15e traversée entre Bordeaux et Dakar. Je sais que lui, Jacques, on lui a demandé la première question qu'on lui a posé lorsqu'il est arrivé sur les côtes des Sables d'Olonne, ben, dans son bateau, dans son navire de sauvetage, il n'y avait que des uniformes. Et les gens lui ont dit mais où sont vos passagers ? Et cette question, je sais qu'il se l'est posée toute sa vie. Parce qu'il était rescapé, il n'était pas nombreux à être rescapé. Et lui, tout le reste de sa vie, il aura cette question en tête. On dit que sur son lit de mort, il a parlé du bateau noir et des passagers.
Dans ces tristes circonstances, je ne peux que louer la conduite du commandant Leduc qui avait conservé tout son calme et tout son sang-froid. La conduite des officiers de l'équipage fut admirable, notamment celle du maître d'équipage et du charpentier. Admirable aussi la conduite des passagers, qui fut toute de résignation. Je me permets de faire remarquer à la fin de ce rapport que s'il y eut autant de victimes parmi les passagers et l'équipage, c'est que le temps était affreux et la mer démontée. Seuls quelques hommes courageux risquant le tout pour le tout ont réussi à se sauver. En foi de quoi, je dressai le présent rapport pour valoir ce que de raison. La Rochelle, le 16 janvier 1920, signé Corée.
Dans les semaines qui suivent, ce sont des dizaines de corps qu'on retrouve, pris dans les chaluts ou rapportés par la mer le long des plages de Vendée, de Bretagne et de Charente-Maritime. Louis Adenier, à l'époque sous-directeur des chemins de fer du Dahomey et passager de marque, était l'un d'eux. Son petit-fils Alain a hérité de cette histoire familiale.
Le corps de mon grand-père a été retrouvé à l'île-Dieu le 26 janvier par deux pêcheurs et qui ont trouvé le corps de mon grand-père flottant. Donc il était 9h du matin, donc ils l'ont ramené à terre. À bord, on a découvert des papiers, ces cartes de visite qui permettaient de l'identifier comme tel. Le maire de l'île-Dieu a envoyé ultérieurement à mon père une lettre pour lui dire que mon grand-père tenait de ses deux mains D'abord, il était vêtu d'une ceinture de sauvetage qui semblait être professionnellement attachée, et qu'il tenait de ses deux mains, il avait une pèlerine, et il tenait de ses deux mains sa vareuse comme pour s'en séparer. Et le maire disait également que, bon, outre la grande souffrance morale qu'il avait dû endurer dans cette tragédie, il n'aurait certainement, à son avis, pas beaucoup souffert, et qu'il avait dû être commotionné, en fait, par l'eau. On était au mois de janvier, il faisait très froid. Voilà. Donc, voilà comment on a retrouvé mon grand-père, qui a été inhumé à l'Île-Dieu. Donc, alors, vraiment, je dirais de façon autoritaire, si je puis dire. Hein. Et par la suite, on a fait exhumer donc le corps de mon grand-père de l'Île-Dieu pour être ensuite rapatrié sur Dijon. Ici, j'ai gardé cette carte. Parce que c'est la dernière carte qu'il a envoyée.
Est-ce que vous pouvez la décrire ?
Ici, c'est une carte postale qui montre le paquebot Afrique de la compagnie des charges réunions. C'est une vue un petit peu inhabituelle. D'habitude, on le voit plutôt l'étrave en avant. Et voilà, donc c'est le paquebot Afrique. Et puis, elle porte, vous voyez, c'est marqué le 8-1-20, c'est-à-dire le 8 janvier 1920, Bordeaux. Et voilà, il a envoyé cette lettre-là, bonjour de Bordeaux, à monsieur Paul Adonier, Crédit Lyonnais de Dijon, dont c'était un de ses enfants qui travaillait au Crédit Agricole.
À la mémoire des 568 victimes du naufrage du paquebot Afrique, survenu le 12 janvier 1920 à 23 000 dans le sud-ouest des Sables-d'Olonne. Voilà, cette stèle existe depuis le 9 septembre 2006. Il y a le navire qui est stylisé au-dessus, le paquebot Afrique. Il m'a fallu 5 ans avant d'obtenir l'autorisation de l'implanter ici sur le site du Mémorial des Paix en Mer. La stèle a été payée par l'association des familles et des sympathisants des disparus. Le maire de l'époque n'ayant pas voulu payer la stèle au motif qu'il n'y avait pas de sablés à bord de ce navire. Mais il y avait quand même des Vendéens. Et tout dernièrement, le 12 janvier là, 2020, à l'occasion du centenaire, il y a eu toute une cérémonie qui s'est déroulée, d'ailleurs, avec encore des familles de victimes.
C'était les oubliés du paquebot Afrique, avec Alain Adonier, Luc Corlouer, Hervé Marceau, Roland Mornay. Lecture du rapport du capitaine Eugène Corré par Thierry Beauchamp. Merci à Nicolas Michel, Anne-Marie Catelin-Ledu, Julien Fargetas, Virginie Henriquez et Romain Debec de Lièvre. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Clémence Marie et François Teste.
La suite du documentaire sur les oubliés du paquebot Afrique, ce sera demain à 13h30, mais pour l'instant 14h, c'est l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.